Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce studio de RFI et dans l'émission Radio Foot International. Évidemment, en plus, c'est la dernière émission nocturne de la semaine et toujours avec autant de nouvelles, avec autant aussi, de résultats dans toutes les compétitions autour de la Terre. Sachez aussi que nous sommes toujours le soir en Facebook Live et que vous pouvez donc nous regarder en plus de nous écouter et que vous pouvez surtout partager tout ce qui va se passer dans cette émission. Et l'on commence. Les Américaines en demi-finale de la Coupe du Monde en France et les Françaises éliminées de cette compétition qui se déroule sur notre territoire. C'était tout à l'heure au Parc des Princes, victoire 2-1 après un match très disputé. Côté scénario, on a été plutôt servi, mais c'est la fin du rêve pour l'équipe de France. Peut-être aussi un échec puisqu'elle s'arrête en quart de finale. L'objectif était plus lointain et nous en parlerons dans cette émission. Nous évoquerons aussi la CAN avec le Maroc qualifié. Les Lions de l'Atlas ont battu les éléphants avec un but signé El Niesri. Les Ivoiriens ont manqué beaucoup d'occasions. Nicolas Pépé a été décevant et la Côte d'Ivoire pourra se qualifier, mais il lui faut encore attendre. Pas de prise de bec entre aigles dans le groupe E. Leur match s'est achevé par un nul 1-1, ce qui expose les Tunisiens au danger de l'élimination. Les Maliens, eux, sont plus proches de la qualification, mais eux aussi devront patienter. Plein de matchs au cours du week-end prochain, mais il y en a un qui nous a intéressés, c'est Cameroun-Ghana. Les Lions pourraient déjà se projeter en huitième de finale. Les Black Stars auront, elles, besoin de gagner pour se rassurer. Et puis du côté de l'Amérique du Sud, la Copa América, un match qui vient là aussi de se terminer. Et la demi-finale opposera bien le Brésil et l'Argentine. Un classique derby entre les meilleurs adversaires sud-américains. Les Brésiliens s'étaient qualifiés la nuit dernière et les Argentins viennent juste de le faire. Nous l'évoquerons aussi en quelques instants. Mais je vous présente mes invités que vous pouvez voir. Et évidemment, Rémi, on l'avait congédié cet après-midi, alors on l'a invité ce soir. Bonsoir Rémi Gonneau.
Bonsoir Annie et bonsoir à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices et auditeurs qui... sur ma page Facebook, m'ont dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu n'es pas à l'antenne ?»
Vous voyez, hein, ils ont cru que vous étiez puni, mais pas du tout. On voulait vous avoir pour nous ce soir avec Nabil Djellit. Bonsoir Nabil.
Annie, bonsoir à tous et ravi de retrouver Rémi. Ça fait très longtemps. Je toujours aussi souriant et frais.
Merci. Bon, bah alors ça promet de beaux débats. Et puis Naïm Moniol, bonsoir Naïm.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être là aussi. Radio Foot, c'est parti.
La Coupe du Monde féminine de la FIFA, France 2019.
Et Pinotti frappe droit, s'est enroulé au premier poteau, direct, et c'est marqué. Est-ce que ça a été dévié? Non, elle a marqué directement. Morgane Megan Rapinoe. Oh là là là, 5 minutes de jeu ici au Parc des Princes. Et Megan Rapinoe qui tape direct. Même pas mis hauteur, c'est pas tout à fait rasant, mais légèrement en hauteur, entre les jambes de plusieurs joueuses, me semble-t-il. Elle a troupé tout le monde.
Il y a déjà trois Françaises autour d'elle, mais Morgane, et qui trouve peut-être les solutions sur l'accélération de Tobinis, ça va. Le bel appel, Nif, attention, Emery, qui est dans la surface de réparation, le sol, la remise en retrait, il y a Rapinoe, et le but! Et le but pour les États-Unis de Megan Rapinoe, qui était totalement seul, et celui dans la surface de réparation, le coup de grâce peut-être pour l'équipe de France, menée 2-0 après 65 minutes de jeu dans ce quart de finale.
Et le doublé de Rapinoe là dans le jeu au moment où il faut le marquer. Hein. Allez, Normand Riis, le pied droit de Tillet dans un deuxième temps, en direction de la tête de Renner, le but. Oh, la reprise. Oui, oui, oui. C'est bien tapé Mazri, Renard et son quatrième but dans cette Coupe du Monde pour réduire le score à quoi 10 minutes de la fin du match, hein, ça va être chaud. Mais c'est super le bon moment, c'est le bon moment. Ah, on y croit.
Un match que vous avez pu suivre donc sur RFI avec Éric Chorin et Christophe Diremzian. Les Américaines sont donc en demi-finale et les Françaises éliminées de cette coupe à domicile. Des Françaises en pleurs en réalisant que la fête est finie pour elles. Des Bleues qui avaient rêvé bien sûr d'aller plus loin que les autres fois et qui doivent s'arrêter en quart de finale alors qu'on a vu les Américaines commémorer sur la pelouse toutes ensemble, évidemment avec un grand sourire. Alors on savait que ce match serait dur. On parlait d'une montagne à franchir. Eh bien, ce fut un match difficile. Éric Chorin, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Difficile en effet. Hein.
Ouais, difficile, tendu aussi, parce que finalement, il y aura eu du suspense jusqu'au bout. Mais c'est vrai que d'abord, tout avait mal commencé pour les Françaises.
Bah, tout avait bien commencé pour les Américaines, comme elles ont savent le faire. Et du coup, bah, effectivement, ça a mal commencé pour les Françaises. Elles ont attaqué vraiment d'entrée de jeu, une frappe cadrée quand même dès la première minute. Hein. C'était quand même assez énorme. Et puis bah, ce but, évidemment, de Rapinoe, coup franc direct, qui passe entre les jambes de Henry. Vous vous rendez compte quand même du symbole pour ouvrir le score après seulement 5 minutes.
Les garçons, on super est filmés là. Donc,
Oui, Annie, vous êtes filmée, c'est vrai ?
Alors on est filmé, mais on vous voit pas vous. C'est très dommage d'ailleurs hein, de pas réussir à vous voir. En tout cas, Nabil Djellit, est-ce que vous avez pris plaisir à voir
oui.
ce match ?
Oui, parce que c'est le premier match de cette compétition où j'ai vu vraiment une intensité bien au-dessus de la moyenne. J'ai pas vu des temps faibles. J'ai vu des équipes qui ont essayé de jouer, certes avec leurs limites et leurs lacunes du côté français, mais j'ai surtout vu une équipe américaine qui est quand même impressionnante, qui est solide, bien en place, avec des joueuses notamment sur les côtés, et cette fameuse Rapinoe qu'on a appris à tous connaître, parce que en plus c'est souvent le cas des sportifs américains, ils ont parfois une dimension qui dépasse le sport. Elle s'est elle-même opposée au président Trump, que j'ai vu sur le côté gauche, extrêmement impressionnante.
Bah, d'ailleurs, elle marque les deux buts. Hein.
Voilà,
c'est la double buteuse.
Bon, elle parle en dehors et elle agit sur le terrain, donc un vrai gros match. Après, on reparlera évidemment du contenu. Oui.
Naïm, pardon.
Non, je n'ai pas vu un gros match. C'est-à-dire que les États-Unis ont joué à leur niveau, c'est-à-dire un niveau.
Je ne demandais pas gros, mais bon, et si vous aviez apprécié. C'était plutôt ça ma question.
Alors, bon, non, je n'ai pas vu un bon match. L'équipe de France a joué à 15 minutes, 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. Est-ce que j'ai apprécié ? Moi, j'apprécie le football, donc je regarde et puis je tire des conclusions, des analyses. Très bien, je n'ai pas vu un bon match, non. Je n'ai pas vu une bonne équipe de France, en fait.
Est-ce que tu as vu les autres matchs ? Parce que si celui-là, c'est pas un bon match, les autres matchs,
justement,
c'est
meilleur, oui, justement, oui, j'ai vu les autres matchs et moi, pour avoir vu, par exemple, l'Angleterre ou les Pays-Bas jouer, j'ai pas vu un bon match avec la France.
On va y revenir alors. Rémi Nguenot, qu'est-ce que vous nous dites, vous, sur ce quart de finale qu'on disait très difficile pour les Françaises et qu'il a été ?
Match moyen, je ne peux pas dire que ça a été emballant, dans la mesure où il faudrait quand même se dire que lorsqu'on essaie de regarder ce qui s'est passé, par exemple, l'équipe de France, durant toute la compétition, n'a d'ailleurs pas impressionné. Et quand on voit l'équipe de France, justement, c'est à la deuxième mi-temps qu'elle essaie de jouer pendant, c'est-à-dire que jusqu'à la 60e minute. Et pourquoi ? Et pourquoi est-ce qu'elle joue comme ça ? C'est-à-dire que les 15 minutes de folie, c'est parce que les États-Unis sont en train de les piéger. Il faut le savoir. Les États-Unis sont claquemurés, savent très bien qu'il y a des lacunes défensives au niveau de l'équipe de France, qu'on nous présentait quand même comme ayant la meilleure charnière centrale du monde. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, avec les erreurs de placement, que ce soit au niveau de Mbok, et même lorsque je vois qu'on ne peut pas couvrir Mazri, quand elle essaie de monter, j'ai dit, il y a eu beaucoup de lacunes, et surtout, j'ai vu que vraiment, il y avait un manque d'impact physique côté américain, ce qui signifie que pour moi, ça n'a pas été un match extraordinaire.
Et de toute façon, regardez, derrière cette séquence d'un quart d'heure où l'équipe de France a été meilleure que ce qu'elle a proposé, derrière, les Américaines marquent tout de suite le deuxième but en contre et c'est terminé.
Éric Chorin, ce qu'on a vu peut-être de cette équipe de France et ce qui nous a fait peur pendant cette rencontre, c'était justement les erreurs qu'on avait vues au fil des premiers matchs de la compétition. Elles étaient vaillantes, certes, mais il y avait des limites, et notamment beaucoup d'imprécisions dans les passes et peu de tirs cadrés.
Bah oui, c'est sûr, la première période est là pour l'illustrer. Il n'y a pas eu une seule frappe cadrée dans cette première période. Au total, à la fin du match, 20 frappes cadrées des Françaises quand même. Alors pas toutes des frappes très très puissantes, hein, je suis bien d'accord. Simplement 5 de cadrées. C'est ce déchet énorme qu'on avait constaté lors des matchs précédents qui était encore là, alors que les Américaines ont beaucoup moins tiré au but, mais elles ont quasiment tout cadré. Et c'est une grosse efficacité qui fait la différence. Et puis on a bien vu aussi une incapacité aussi des Françaises en première période à trouver la solution, à résister au pressing des Américaines qui étaient là sur tous les ballons. Après, elles ont su, comme elles l'avaient déjà fait déjà face à la Norvège par exemple, réagir en deuxième période et passer un petit peu à la vitesse accélérée, mais ça n'a pas suffi parce qu'il y a eu le deuxième but américain qui est intervenu pile au bon moment pour permettre aux Américaines de ne pas douter comme elles avaient pu éventuellement le faire face à l'Espagne.
Ce quart d'heure de folie, alors il y a eu le début de la mi-temps, mais surtout quand il y a le but finalement, oui. Le but français, Nabil, non, ouais. Ensuite et qui a le fameux 2-1, où elles essayent et elles pousseront jusqu'au bout pour marquer. Est-ce que pour vous, c'était trop tard?
C'est le scénario, il a été favorable aux Américaines d'entrée. Elles ont,
troisième minute. Hein. Voilà, il y a un carton jaune pour la défenseur centrale Mbok, et en plus, il y a ce but sur une combinaison claire.
Clairement, il y a une équipe qui est meilleure que l'autre, mais quand même, moi, très sincèrement, j'ai trouvé qu'en termes de détermination, d'envie, et même en termes de maîtrise, j'ai trouvé les Françaises plutôt intéressantes. Alors évidemment, leur jeu offensif, c'était quasi néant, et c'est un petit peu toujours le même registre depuis les débuts de la compétition. Mais je trouve quand même que cette équipe de France, elle a quand même imposé quand même un vrai défi à ces Américaines. Elles ont été quand même, à mon sens, je me trompe peut-être, hein, elles ont été à mon sens bousculées, à l'image par exemple de la latérale gauche qui va bien dormir, l'Américaine, parce que la Diani, même si elle est un peu brouillonne, franchement elle a apporté, elle a percuté. Alors évidemment on nous explique que Gauvin c'est Giroud, mais Giroud, autour de lui il y a Mbappé, il y a Griezmann. Bon il manquait Mbappé et Griezmann en équipe de France, si vous voulez, en équipe de France féminine. Donc moi j'ai trouvé quand même que la France avait tout donné avec les limites qu'on connaît.
Les Américaines, Éric Chorin, est-ce que pour vous qui étiez au Parc, vous avez eu l'impression, on se souvient de leur match précédent face aux Espagnols où ça n'avait pas été si facile d'obtenir la victoire et de se qualifier. Est-ce que selon vous, elles ont au moins été bougées, comme on dit? Je ne dis pas qu'elles auraient douté, mais qu'elles ont été bougées.
Elles ne l'ont pas été du tout en première période, ça c'est sûr. Après, en deuxième période, elles l'ont été un peu quand elles ont commencé à manquer un peu de rythme et que les Françaises ont réussi justement à presser, à cadrer un peu. Il y a quand même eu, justement, sur certains coups de pied arrêtés, puis sur cette frappe d'Henri, ce but de Wendy Renard, là, elles ont réussi à les bouger un peu. Ce que je me dis, c'est que, effectivement, après avoir vu aussi le match des Anglaises face aux Norvégiennes, on peut s'attendre quand même à une confrontation très serrée entre les deux équipes qui tournera peut-être pas à l'avantage des Américaines. Hein.
On va écouter une des réactions de ces joueuses, Gaëtan Tinet, à la sortie du terrain, interrogée par nos confrères de Canal+.
Au moins un but, puisqu'on perd 2-1. Je pense qu'on a très très bien joué. Être capable d'être plus efficace, croire un peu plus en nous. Je pense que c'est la différence entre la mentalité française et la mentalité américaine. Elles ont extrêmement confiance en elles. On dit que c'est de l'arrogance, peut-être, mais elles sont ultra positives. Elles se font porter par leur pays. Elles sont, nous aussi, c'était le cas. Mais je pense que la clé, elle est dans le mental,
Ouais. Alors évidemment, la clé, elle est dans le mental, et on en parle souvent, même chez les garçons.
Dans les qualités, peut-être.
Mais là, Naïm Moniol, c'était pas une histoire de mentalité, sur le terrain. C'était une histoire de qualité, et on a bien senti que c'était une machine américaine bien huilée.
Parce qu'on nous dit, c'est les États-Unis, c'est la meilleure équipe, c'est le très haut niveau. Moi, je vais vous dire très clairement ce que je disais à David Finzel quand je suis arrivé. Ce match-là, tu le perds aussi contre l'Allemagne, contre l'Angleterre, contre les Pays-Bas, peut-être même contre l'Italie. Parce qu'à un moment donné, tu ne maîtrises rien. L'histoire de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde, c'est une descente en puissance. On a eu un gros match face à un adversaire très faible, et puis progressivement, le niveau s'est étiolé. C'est déjà passé très ric-rac face au Brésil. Là, aujourd'hui, quand bien même il y a 2-1 et que tu as 10 minutes de folie, si vous voulez appeler ça de la folie pour être sympathique, mais quand vous n'arrivez pas à aligner 4 passes de rang, et ça, pas uniquement dans le dernier quart d'heure, mais depuis le début du match, que vous avez des cadres, Tinet, Buseglia, Henri, qui sont pas à leur niveau, et que tout repose sur une joueuse, Diani, qui est non seulement excentrée, qui est toujours dos au but et qui est jamais en situation d'être dangereuse. Ajoute à ça un coaching, il arrive à le premier changement de Corinne Diacre, il est à combien, 70e, 75e minute pour faire entrer Cascarino. Faut arrêter les blagues. À un moment donné, on pouvait pas battre les États-Unis. Les États-Unis d'ailleurs ne se sont pas énormément dépensés, elles ont très bien géré leur match. Je le répète, face à l'Angleterre, face aux Pays-Bas, face à des équipes qu'on a vues costaudes, avec des qualités, avec du physique. L'équipe de France ne passait pas ce soir non plus.
Éric Chauvin, est-ce que vous avez l'impression, ou peut-être qu'on se trompe, mais que finalement, eh bien, peut-être que les Françaises, elles s'étaient pas assez bien préparées pour ce match qui, on en a parlé dans la première émission cet après-midi, était attendu depuis le mois de décembre, depuis le tirage au sort pratiquement.
Je suis bien incapable d'évaluer la préparation des Françaises. Annie, j'y étais pas. Donc, elles se préparaient à huis clos. Non, pour moi, elles l'ont préparé ce match. Elles n'ont pas pu répondre présent au départ parce que là, les Américaines sont meilleures. Et surtout sur l'entame du match, ça me paraît totalement évident. Il n'y avait pas grand-chose à faire face à des joueuses, notamment la ligne d'attaque qui était quand même extrêmement... Moi, j'ai pas souvent vu jouer Alex Morgan. J'ai rarement vu une joueuse courir autant sur un terrain, presser. Donc, la défense française, le milieu terrain. Rapinoe qui est vraiment d'une efficacité redoutable, ça lui fait 4 buts en 2 matchs même s'il y a eu 2 pénaltys la dernière fois. Tobias très très rapide, celle qui rentre c'est pareil derrière pour gérer la situation. Donc je pense qu'elle savait qu'elle jouait ce gros match depuis le début, elle l'avait dans la tête depuis le tirage au sort, depuis le mois de décembre, même si elle refusait de se l'avouer. Et je sais pas si elles l'ont pas assez préparé, je pense qu'elles étaient vraiment dedans, sauf que il y a une équipe qui est meilleure que l'autre, il y a un banc qui est plus profond, très peu de solution pour les Françaises, effectivement, pour pallier certains déficits physiques en début de match. Mais sur l'envie, à la fin, certaines joueuses qui étaient pourtant esselées, enfin qui avaient du mal, comme Marion Thorin, par exemple, au début, elle avait la niaque à la fin. C'est difficile à comprendre. Donc je pense que l'envie, elle l'avait, mais elles ne savent pas démarrer le match à la première minute, comme les Américaines savent le faire.
Rémi ?
Le problème que moi j'ai constaté, bien évidemment, on me parle de l'efficacité, et tout le monde le savait déjà. Quand vous laissez la meilleure buteuse, je l'avais déjà dit, qui n'est pas sélectionnée. Vous avez vu, on a bien dit que le sommeur peut être dangereuse, mais on a vu que elle n'était pas aussi puissante qu'on pouvait imaginer. On a cru qu'on avait
plus puissante.
Alors on a cru qu'on avait trouvé une Thierry Henry. On disait que parce qu'elle porte le même nom, mais Amandine a été une Clémentine aujourd'hui. Sauf que c'était une Clémentine sans jus. Donc aujourd'hui, quand on essaie de regarder ça, à quel moment, comme je disais justement, comme mon cher ami est en train de le relever tout de suite là, que le coaching intervient à quelle minute? À la 75e minute, pour amener de la vitesse. Parce que le coaching, c'est quoi? Vous constatez quand même que vous êtes en train de jouer contre une équipe d'Allemagne où vous voyez comment est-ce que l'autre coach dit qu'on joue à faire, c'est-à-dire que 5 derrière, 4, 1. C'est-à-dire que vous comprenez...
Les Américaines.
C'est les Américaines. 5, 4, 1. Et qu'est-ce que vous devez donc faire? Vous devez apporter de la percussion. Donc cette percussion-là, c'était les Cascarino qui arrivent un peu tard. Viviane Essayi qui va arriver un peu plus tard encore. Et finalement, on se dit que cette équipe telle qu'elle est organisée, il n'y avait pas une préparation. Et la preuve, c'est que j'ai constaté que on ne savait même pas couvrir les latéraux. Bon, appelons ça comme ça, quand elles sont en train de monter. Donc, pour moi, j'ai constaté
latéral, c'est bien aussi.
Ah oui, les latérales, ça peut aussi être bien. Donc, pour moi, j'ai constaté que les États-Unis étaient sûrs de leur fait. Et vous oubliez un fait de jeu. Les États-Unis ont un pénalty. Et bien, on a un but qui est invalidé. Mmh. On n'a même pas fait appel à l'avare.
Non,
parce
mais
que c'est
tué
le match à cet endroit-là. Donc, les États-Unis se disaient, il nous suffit d'accélérer, boum, dedans.
Il faut se poser la question, maintenant que l'équipe de France est éliminée, on peut tout à fait dresser un bilan. Qu'aurait été la compétition s'il n'y avait pas eu les coups de pied arrêtés? Il y en a 3 face à la Corée du Sud. Vous avez un pénalty très généreux face à la Norvège. Vous avez 2 pénaltys qui sont historiquement ridicules face au Nigeria. Vous avez un coup de pied arrêté qui donne la victoire au Brésil. Et vous avez un coup de pied arrêté qui amène le but aujourd'hui. Retirez les coups de pied arrêtés de l'équipe de France. Dans le jeu, je ne vais pas dire que c'est Walou, mais pas loin. Donc, on nous a dit, certaines personnes qui viennent régulièrement autour de cette table nous ont dit « Oh là là, attention, elles ont battu en amical les États-Unis au mois de janvier. C'est la France, ça a énormément progressé, c'est du très haut niveau. » Sans se soucier que les Américaines étaient une période d'intersaison.
Si, on l'a dit tout à l'heure dans l'émission.
Vous avez attendu bien longtemps avant de le dire. Donc il ne faut pas, peut-être pas vous personnellement, mais
bon,
certaines personnes...
Vous avez mal écouté.
Non, vous savez très bien de qui je veux parler.
Non. En tout cas, Eric, juste pour terminer, une question et on y reviendra la semaine prochaine, bien sûr, dans Radio Foot. Est-ce que c'est un échec pour le football français?
En tout cas, pour les dirigeants de la Fédération française de football, les membres actifs qui étaient au sein de cette fédération, par rapport à l'objectif qui était fixé initialement, il fallait au moins le dernier carré à l'époque, hein, pour espérer justement créer un déclic qui permette de développer le football français. Je suis pas sûr que ça soit, je parle vraiment au-delà du terrain, hein, pour l'instant, tant un échec que c'est, parce que la couverture médiatique en revanche et le succès populaire a été quand même au rendez-vous, peut-être au-delà de ce qu'ils pouvaient espérer. Pour l'équipe elle-même, oui, bien sûr, c'est un échec, c'est un nouvel échec en quart de finale. Elle n'arrive pas à passer ce plafond. C'est très très difficile pour elle. Il y a des joueuses qui vont s'arrêter, des anciennes comme Busaglia, comme Tinet, qui jouaient peut-être probablement hein, leur dernier match ce soir avec l'équipe de France. Il y a des joueuses en revanche d'avenir. Delphine Cascarello n'a pas assez joué effectivement lors de cette Coupe du Monde. Marie-Antoinette Catoto n'était pas là parce qu'elle était peut-être pas encore Amraoui. Tout à fait prête. Amraoui, Kadidiani, elle a encore de belles années devant elle. Des joueuses qui jouent avec toute cette percussion, cet engagement et cette technique qui fait encore défaut à beaucoup des joueuses françaises de la génération précédente.
On va écouter pour terminer ce que dit de cette rencontre et de cette élimination la capitaine Amandine Henry.
On savait que dominer n'était pas gagné. On a fait une erreur défensive en première mi-temps qu'on paye cash. Après, voilà, on court après le score. Après, elles ont mis le bus, hein, je pense, devant. Donc, il y avait toujours un pied, une jambe qui traînait. C'était pas facile de trouver la faille. On a tout tenté. On a essayé de frapper dans tous les sens, mais voilà, c'est pas rentré. Le sentiment, c'est que voilà, on a tout donné. Et malheureusement, que c'est pas passé. Il faut continuer à travailler. Et de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on arrivera.
La compétition, en tout cas, continue puisque la demi-finale, eh bien, se disputera entre cousines, entre l'Angleterre et les USA. Et puis, on parlait d'échec peut-être pour les Françaises. Eh bien, il faut savoir que cet échec en quart de finale fait que la France ne disputera pas les Jeux Olympiques où le football féminin est une discipline très importante. Mais d'ici 2024, elles auront peut-être le temps de
corriger,
d'améliorer leur niveau. Merci beaucoup, Éric Chorin, d'avoir été avec nous. Et on vous laisse avec les filles en pleurs.
Ben oui, elles ont souffert un petit peu ce soir. 45 600 spectateurs quand même. Ça, c'est quand même une petite fête du football, même si Naïm n'a pas beaucoup coûté la fête.
C'est après, vrai. Eric, 23 filles à consoler, t'as du boulot. Hein.
Oui, je oui. Ouais. J'ai pas fini. Hein.
Allez, bye bye. Ouais. Et merci beaucoup. Nous, on part vers la CAN.
Radio Foot International. CAN Total. Égypte 2019.
Amigas. Il va pouvoir se mettre dans le sens du but. Amrabat. Il résiste à une charge, deux charges, ouais. Crochette. Et il passe à l'essai. L'essai, le but. Cette fois-ci, elle est dedans pour le Maroc. Quelle passe magnifique d'Amrabat dans la surface. Amrabat, il n'est pas en jeu. C'est Siri. Et il exécute. Sylvain Boho sur sa droite, ouais. Le Maroc prend l'avantage ici à l'Al Salam du Caire après pile 23 minutes de jeu.
Le Maroc a pris l'avantage et il l'a gardé, cet avantage que vous racontez Antoine Grenier et Joseph-Antoine Bell. Alors une victoire des Marocains sur les Ivoiriens, et bien voilà les Lions de l'Atlas qualifiés pour le prochain tour. Ils rejoignent le Nigeria, l'Égypte et l'Algérie. Beaucoup de pays du Maghreb, oui. Hein, finalement dans ce groupe, hormis le Nigeria.
Ils sont dans leur zone de confort géographique. Alors, on va pas faire de déterminisme. On n'est pas là dans la théorie des climats, mais bon.
En tout cas, on a vu les Lions bien plus séduisants qui maîtrisaient leur sujet avec El Nesri, le buteur du Maroc, alors que les éléphants ont peiné. Ils ont même eu du mal à retrouver Nicolas Pépé sur le terrain. On va y venir. Pire nouvelle aussi. Serge Aurier est blessé et la CAN est peut-être terminée pour lui. Écoutons-le au micro de David Kalfa. Il a reconnu que les joueurs étaient fatigués.
Vous avez plus de jus que nous, donc ça s'est senti. On a vu qu'on n'était pas très bien physiquement dans ce match-là, donc on va se reposer et puis on va essayer de bien finir ce dernier match qui est synonyme de qualification. On aurait préféré gagner ce soir ou avoir un point ce soir pour être qualifié directement. Mais bon, ce qui est bien ce soir aussi, c'est qu'il nous reste encore un match, donc il faudra être encore plus costaud et mieux organisé pour pouvoir gagner ce match. Tant que l'objectif n'est pas mort, on essaiera de tout donner au dernier match.
Qu'est-ce qui vous est arrivé? Du coup, vous êtes blessé?
Ouais, pour moi, je pense que c'est peut-être terminé parce que j'ai ressenti, je crois que c'est un claquage, une déchirure. Donc, on va faire l'examen demain, on verra. mais voilà, c'est pas top top.
C'est pas top top, ah, et c'est dommage, même peut-être ouais. terminé. Ouais, c'est une mauvaise nouvelle pour la Côte d'Ivoire.
C'est une très mauvaise nouvelle. C'est le capitaine, de cette sélection. C'est un joueur important. Il est sur un couloir. En plus, on peut dire que même si on, sur ce match-là, ça a été pas forcément le cas, puisque de toute façon, la prestation de la Côte d'Ivoire a été pour moi famélique, mais c'est quand même le côté fort pour moi de la Côte d'Ivoire sur les côtés. C'est Aurier Pépé. Donc voilà, c'est une très mauvaise nouvelle pour les éléphants en plus de cette défaite, si ça se confirme.
Olivier Pron, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Alors Olivier, vous commentiez votre premier match hein, sur cette CAN. On avait annoncé votre arrivée dans la compétition tout à l'heure. Vous y êtes et ceux qui nous regardent sur Facebook Live peuvent même vous voir parce qu'on a la magie maintenant aussi de cela, en plus de la voix. Olivier, racontez-nous ce match. Les Ivoiriens ont été à la peine et les Marocains, eux, ont plutôt confirmé une impression qui n'était pas top top. Par contre, c'est le cas de le dire. Après le premier match,
On a vu plutôt une bonne première mi-temps qui était assez agréable avec des Marocains très entreprenants et des Ivoiriens qui se sont quand même montrés dangereux dès la première minute. Ils auraient pu ouvrir le score sans le sauvetage sur sa ligne de Saïs. Il y a aussi une belle frappe de Seredier, me semble-t-il, juste avant la pause, bien claquée par le gardien. Donc on aurait pu avoir une mi-temps avec un ou deux buts de plus, globalement une première mi-temps équilibrée, puis c'est la deuxième malheureusement, et quand on regarde un match de foot et quand on le commente, on aime bien que ça aille jusqu'au bout des 90 minutes. Là on a clairement l'impression que les Ivoiriens avaient laissé leur esprit combatif, entreprenant au vestiaire, leur football aussi, parce que on a eu beaucoup de fautes d'un côté, mais ça c'était tactique et sans doute demandé par Hervé Renard à ses troupes à la pause au vestiaire. En revanche, du côté ivoirien, on peut être très très déçu de la prestation de la deuxième mi-temps. On n'a rien vu, il n'y a pas eu une occasion, à part, je crois, à la 89e minute, un retourné de Traoré bien capté par le gardien, à la 89e minute, alors que vous êtes mené 1-0 depuis la 23e. Trop pauvre l'équipe ivoirienne pour espérer mieux ce soir, et trop peu entreprenante et trop maladroite.
Rémi, votre commentaire sur ce match ?
Le commentaire, c'était que j'ai vu une équipe médiocre, et quand on annonce
laquelle?
La blessure de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les éléphants, je crois que Serge Aurier a arrêté à jouer au football en 2016, depuis le Paris Saint-Germain. Donc, on ne peut pas me dire, lorsque vous regardez ce qui s'est passé, le premier but d'ailleurs, même comme aujourd'hui, on peut dire que c'est l'homme fort, mais non, c'était le côté faible. Parce que justement, c'est lui qui, au lieu d'attaquer Amrabat, ne part pas sur lui. Il laisse pratiquement qu'il vienne au niveau de la défense. Et au lieu de couvrir encore, il ne peut pas couvrir. Il ne sait pas resserrer les lignes. Donc pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous regardez cette équipe de la Côte d'Ivoire, elle était trop faible derrière parce que justement Aurier et son coéquipier de l'autre côté étaient nuls. Et quand vous regardez l'axe central de la Côte d'Ivoire avec Bailly, qui manquait déjà, Eric Bailly, qui manquait, j'ai cru peut-être que on allait confier les clés du camion à Canon. Canon a été véritablement un mur de coton. Donc ça ne tenait pas. Donc pratiquement derrière, ça n'allait pas. Et devant, vous n'avez pas sélectionné Gervinho, qui pouvait vous apporter quelque chose. Ça fait que les deux pattes des éléphants manquaient. C'est-à-dire qu'une patte devant, une patte derrière. Et comme le dit un proverbe africain, un éléphant qui perd ses deux pattes ressemble à une mouche qui n'a pas d'ailes.
Bon, une mouche sans ailes. Rémi. C'est les Marocains alors qui avaient des ailes, Nabil.
Pour moi, j'ai trouvé que l'équipe du Maroc a totalement maîtrisé les débats. Ils ont rapidement éteint cette Côte d'Ivoire. Il faut pas s'arrêter au nom hein, dans cette histoire, parce que moi j'ai vu deux équipes complètement diamétralement opposées en termes de dynamique, mais en termes de cohérence, en termes de plan de jeu. Les Marocains, ils savaient chacun ce qu'il fallait, qu'il fâche. Chacun connaissait son rôle parfaitement. J'ai été agréablement surpris par cette équipe marocaine qui avait eu un petit peu de mal sur le premier match, mais c'est quand même un coup de gueule. C'est pas possible la Côte d'Ivoire d'avoir des joueurs comme ça, jouer comme ça. Alors, ils ont de la chance parce que le format de la compétition va peut-être leur permettre d'apporter des correctifs. C'est une équipe coupée en deux. Série en numéro 10, c'est pas possible. Et l'exploit, et je terminerai là-dessus, l'exploit, c'est de laisser Wilfried Zaha sur le banc, qui, je le rappelle, est le meilleur joueur du championnat d'Angleterre hors Big Six. Ça, c'est exceptionnel.
Et depuis le début de la compétition, et vous ne rectifiez même pas. C'est ça qui est incroyable. Et quand vous dites là, les deux en dehors de la tête de Kodja. Les tirs viennent des kits, des séries, comme vous dites par exemple, au milieu du terrain, on voit comme ça, après, ils posent les mains sur la tête, sans pour autant oublier que le Maroc, à tout moment, montrait une vraie cohérence de jeu. Ça, ce n'est vraiment pas cette équipe de Côte d'Ivoire qui peut aller loin.
En fait, la différence, elle est là, c'est qu'on dit Pépé, les décevants, c'est vrai, mais Pépé, pour qu'il soit bon, il faut qu'il ait des ballons, et les ballons, s'il lui arrive pas parce que le milieu a pas mis le pied sur le ballon, il peut pas être bon, en fait. C'est pas quand tu dis Canon et c'est du coton, mais oui, mais en fait, c'est pas Canon qui est en défense centrale qui doit récupérer le ballon et construire le jeu. Au milieu, ils se sont fait manger. Faut regarder aussi le correctif qu'a apporté Renard. Boussoufa qui revient dans l'entrejeu, c'est très fort. Belanda titulaire, bah, ça permet à Ziyech et à Amrabat de se déresponsabiliser un petit peu de ce qui se passe dans le milieu pour se concentrer sur ce qu'ils font sur les côtés. Amrabat, pour moi, c'est l'homme du match. Je l'ai dit pendant le mondial, je vais le répéter aujourd'hui, je sais pas ce qu'il fait en Arabie Saoudite.
Mais il y a des joueurs de club, il y a des joueurs de sélection, lui fait partie de la deuxième catégorie.
Je trouve incroyable que ce joueur-là ne soit pas dans un championnat un peu plus huppé avec les qualités qu'il a. Donc bravo.
Olivier Pron.
Mais Ziyech, lui, il passe à côté, hein, il n'est pas celui-là
ouais,
qui.
Ouais, mais il passe à côté, mais ils ont gagné. Sans un grand Ziyech, ils ont gagné. Voilà.
Olivier Pron, on a l'impression d'assister alors à la. Et c'est peut-être la méthode Hervé Renard d'assister à une montée en puissance de cette équipe du Maroc. Parce que c'est vrai que le premier match avait été gagné, certes, face à la Namibie.
Oui.
Mais il n'avait pas été ultra séduisant, les Marocains.
Mais il y a peu d'équipes qui sont séduisantes dès le premier match et dès leur entrée en lice. Il fallait prendre 3 points, ils les ont pris. Il y a plein d'équipes depuis le début de cette CAN qui, en tout cas lors de la première journée, ont gagné en faisant le minimum. Et c'est la marque justement des grandes équipes de savoir gagner sans forcément être au top. La montée en puissance, bah, c'est la marque encore une fois d'une équipe qui veut aller au bout et le Maroc veut aller au bout. Il l'a dit en conférence de presse d'après match, Hervé Renard. L'objectif, c'est de faire mieux que 2017. Donc ça veut dire d'aller au moins jusqu'en demi-finale. Et on savait avant le début de cette CAN qu'avec l'Égypte et peut-être le Sénégal, même si ça a pu changer depuis ces derniers jours, mais voilà, on avait là les favoris ou les prétendants au titre. Alors d'autres sont venus s'ajouter, d'autres ont disparu, mais on tenait à peu près ça. La Côte d'Ivoire, vaguement outsider, elle a montré ce soir qu'elle ne serait sans doute pas plus que ça. Ce qui est certain, c'est que Hervé Renard a gagné le match des coachs. Je suis pas sûr que Ibrahim Camara soit tout à fait l'homme de la situation quand il faut s'adapter à des changements tactiques. Ça, c'est très très clair. Pour répondre à ceux qui s'étonnaient de la présence de Wilfried Zaha. La question a bien sûr été posée en conférence de presse à Ibrahim Camara, bon, qui a toujours cette manière de sourire comme s'il nous prenait tous pour des crétins, hein, les journalistes qu'on connaît. Il aime tout à fait communiquer, c'est un grand communicant, mais enfin, ça fait partie de son métier, je ne suis pas sûr qu'il ait le temps de le comprendre très vite. Mais il a dit qu'il avait prévu de le faire rentrer, mais que la blessure de Serge Aurier avait tout changé. Alors, c'était la 67e minute, voilà, on aurait peut-être pu voir Zaha 20 minutes, il nous a promis qu'il serait là au dernier match en même temps. Ouais. C'est un match qui va devenir très important, donc il vaut mieux qu'il le fasse jouer un peu quand même.
Merci beaucoup Olivier Pron d'avoir été en direct du Caire avec nous, puisque vous suivez désormais cette CAN pour RFI. Merci beaucoup, on va passer à l'autre match du jour.
Mali, 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 Mali.
Là, il y a un corner, attention là, oh, la toile et le but de l'équipe malienne, voilà, justement. Eh bien, on disait qu'elle n'était pas tranchante, cette équipe malienne, elle est venue marquer avec une erreur là de Mouez Hassen.
C'est Messi qui sort, le 8 qui rentre, Wabi Kazri, c'est pas mal, c'est dévié, c'est dans le but. C'est dans le but, c'est malien, bien voilà la réponse, Alejandro, le but de Wabi Kazri, un but partout. Entre le Mali et la Tunisie, un coup franc un petit peu dévié par le mur. Mais bon, la chance tourne aussi, il n'y a pas que le vent. La chance tourne cette fois, elle était pour la Tunisie.
Un but de chaque côté, les Aigles eh bien, ont tant pour ceux de Carthage que du Mali marqué un seul but dans cette partie, buteur de la soirée, Diadé Samasekou d'un côté, puis l'égalisation qui est venue des pieds du Stéphanois, hein, Wabi Kazri. Alors un nul qui fait plus sans doute les affaires des Maliens que des Tunisiens, en tout cas écoutons Amadou Aïdara des Maliens.
C'était un bon match, dans l'ensemble c'était bien, on a pu marquer et puis on était solide défensivement. Mais la Tunisie a une bonne équipe aussi, ils ont poussé à la fin, ils ont pu marquer, mais heureusement on n'a pas perdu, on a un point encore et puis on est premier du groupe, on va tout faire pour garder. Mais dans l'ensemble, moi je dirais que c'est pas mal parce qu'on est encore premier, on a la chance de se qualifier aussi, on va tout faire pour être premier du groupe.
Naïm, ouais. C'est un résultat qui arrange beaucoup plus les Maliens qui avaient remporté leur premier match. Ils ont 4 points.
Ils ont 4 points, oui.
Ils sont tout près de la qualification. Comment avez-vous trouvé cette équipe malienne qu'on avait trouvée plutôt intéressante sur le premier match?
Ouais, alors l'adversité n'était pas la
évidemment.
Même. Je les ai trouvés
c'était
beaucoup plus en difficulté, notamment en deuxième mi-temps. J'ai trouvé qu'ils se faisaient un petit peu manger techniquement au milieu de terrain, mais parce qu'ils ne jouent pas non plus sur les mêmes qualités. Voilà, ils ont réussi à marquer le premier but sur une erreur de main de Mouez Hassen. ils ont assuré l'essentiel, ils ont pas perdu, ils sont en bonne posture. Après, sur ce match-là, globalement, j'ai pas vu un grand match, mais on va dire que comme ils ont réussi derrière à tenir la baraque techniquement, la Tunisie a pas non plus été très à droite dans la zone de vérité. Ils ont plus ou moins maintenu leur niveau, ils ont 4 points et ils se qualifieront peut-être pas en premier, mais au moins en deuxième, donc voilà.
Rémi, les Aigles du Mali.
Nettement mieux, parce que c'est pas les Aigles du Mali qui devaient faire le jeu. Parce que il faut bien se dire,
c'était la Tunisie qui
sortait d'un match nul. C'est l'équipe qu'on disait en moins un, il devait aller en huitième de finale à la Coupe du Monde. On disait que bon, attendez, vous allez voir quand ça va arriver, vous allez voir ce que vous allez voir. Jusqu'à présent, on cherchait à voir ce qu'on va voir. On ne voit toujours rien. Donc pour moi, l'équipe de Tunisie est encore moyenne. Imaginez que la Tunisie sera retrouvée aujourd'hui avec un point. Alors que la Tunisie, pendant les matchs de préparation,
elle a réussi à
on nous présente la Tunisie. Mais attendez, la Tunisie qui bat la Croatie en match amical, et tout le monde commence à dire que la Tunisie fait partie des favoris. Mais là, ce que j'ai vu, la Tunisie ne me séduit pas. La Tunisie ne m'impressionne pas. Et je dis bien que, certes, les Maliens ont été bouffés techniquement, mais surtout physiquement, à la deuxième partie, mais ils ont tenu à l'essentiel. Donc pour moi, j'ai dit, le Mali a joué son football comme il le fallait. C'était à la Tunisie de nous démontrer quelque chose, c'est le néant absolu.
Jusqu'à présent, la Tunisie a une particularité par rapport au Maroc et à l'Algérie, c'est qu'elle a la possession du ballon, elle a globalement la maîtrise du match, techniquement elle n'est pas en difficulté, mais elle est quand même nettement moins dangereuse que les autres. Et pourtant, on est en droit d'attendre avec des joueurs comme Kazri, comme Kenissi, tout ça, on est en droit d'attendre qu'ils se procurent des occasions, au moins qu'ils soient dangereux. C'est une équipe qui est finalement peu dangereuse compte tenu de la maîtrise qu'elle a du ballon.
Nabil, je me souviens qu'après le premier match de la Tunisie, on s'était un peu étonné même de certains choix de l'entraîneur.
Bah, il en a fait d'autres et il a notamment changé le gardien de but. Et bon, on peut dire que le plan national pour les gardiens de but en Tunisie, c'est le couscous boulette en ce moment, parce que la Tunisie prend quand même 2 buts sur.
On va l'entendre après le gardien.
On va pas tirer sur l'ambulance, c'est un peu facile. Ni il rentre dans gardien. Un match, effectivement.
Bah, il a pas joué cette année.
Exactement, mais bon, ça dénote quand même d'un problème à ce poste-là. Nigeria également, j'ai des interrogations sur leur poste de gardien de but. J'ai un autre souci pour la Tunisie, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment de finisseurs. C'est des faux neufs. Knissi n'a pas l'air d'être un tueur de surface absolu. Et surtout, quand même, là par contre, on peut quand même peut-être amender ou pondérer, parce que il manquait quand même un garçon sur ce match qui est pour moi le meilleur joueur tunisien. On l'explique comme on veut, même si Kazri est décisif, c'est Msakni qui est quand même le meneur de jeu de cette équipe. Lui, il n'était pas présent sur ce match-là. Après, la Tunisie, elle reste toujours sérieuse, elle reste toujours bien organisée. C'est pas l'équipe la plus rayonnante, c'est pas l'équipe la plus flamboyante, mais sur le troisième match, elle va affronter la Mauritanie, donc je sais pas ce qui va se passer, mais bon, c'est quand même une équipe qui, à mon sens, va se qualifier. Puis ensuite, sur les matchs à coup près, il faudra les prendre très au sérieux, ces Tunisiens.
Alors écoutons-le justement, ce gardien Moez Hassen qui est le numéro 2 du côté de Nice. Et c'est vrai que le ballon lui échappe sur le premier but et du coup sur le but adverse bien sûr. Et il a expliqué ce qui s'était passé au micro d'Antoine Grenier.
La déception. Aujourd'hui, on a fait un gros match. Les garçons se sont bien battus et aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup aidé avec une erreur d'appréciation que j'ai eue en deuxième mi-temps, donc qui nous a coûté les 3 points. On a su rester dans le match face à une très bonne équipe du Mali. On est resté dans notre match en égalisant avec un coup franc de Wabi. Après, on aurait pu perdre ce match-là aussi à la fin si j'arrive à faire l'arrêt et à ramener un point à la maison. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans l'ensemble, les deux équipes se valaient, c'était du 50-50. Donc, on va dire que le match nul est bien mérité. Il faut garder le positif et il faut aller de l'avant.
Des interviews de Cédric De Oliveira et Eric Mamrut du côté de Suez où se disputait le match. Vous avez un doute sur l'identité du buteur?
Oui, non, et c'est Kazri qui tire le coup franc, mais comme le ballon est quand même franchement dévié et que ça change la trajectoire par Moussa Marega, je pensais qu'il aurait été attribué à Marega contre son camp. Mais bon, comme a priori, la règle, c'est s'il a frappé Kadri, on l'attribue au frappeur. Attribuons-le à Kazri.
Donc la Tunisie jouera la Mauritanie, effectivement, oui. Et le Mali jouera la Guinée-Bissau. Alors, est-ce que ça facilitera...
L'Angola.
L'Angola, ouais, effectivement, les Palancas Negras.
C'est encore un bon test pour les Maliens.
Exactement, parce qu'elles avaient tenu la dragée haute aux Tunisiens.
Ils avaient très bien fini physiquement.
Ouais, on en était là. On verra en tout cas ce qui se passera sur les troisièmes matchs qui se dérouleront ces prochains jours. Hein, et en même temps, on le sait, encore beaucoup de matchs. Mais il y a aussi match demain, Rémi Ngono, n'est-ce pas? Et il y a, enfin, au cours du week-end, et notamment, eh bien, on va se retrouver avec demain ce Cameroun-Ghana. Une qualification possible dès le deuxième match pour le Cameroun qui a gagné, qui avait été plutôt intéressant, je crois, sur le premier match. Vous allez me dire, je vois votre regard assez. En tout cas, ils avaient battu la Guinée-Bissau sur le score de 2-0. Ils se retrouvent face à des Ghanéens évidemment motivés parce qu'on fait match nul et qui aimeraient bien surtout peut-être balayer un mauvais souvenir. C'était leur élimination par les Camerounais en 2017 puisque les Camerounais étaient arrivés eux en finale. Alors écoutons-les, ces Camerounais, et notamment le milieu terrain, Georges Mandjek, au micro de Frédéric Suteau. Lui aussi se souvient de ce match et espère que ça ne sera pas une revanche.
Je pense qu'ils n'ont pas oublié la demi-finale qu'ils ont perdue contre nous il y a 2 ans. Donc c'est normal qu'ils viennent avec une certaine revanche. Maintenant, nous, c'est un match important pour nous. C'est le deuxième match, on a gagné le premier. Et il est important pour nous d'enchaîner une deuxième victoire pour pouvoir se qualifier et préparer tranquillement les huitièmes de finale et sans oublier le troisième match qu'on va aborder avec un esprit tranquille.
Un esprit tranquille. Alors Rémi, il ne faut pas avoir un esprit tranquille quand on est lion indomptable et qu'on va jouer les Black Stars.
Les Black Stars ne nous font pas
peur.
Bon. D'ailleurs, même quand les Lions étaient brinque-ballons, à la CAN 2017, on a quand même vu que c'était 2-0. Et à cette époque, ils avaient quand même les frères Ayou qui étaient virevoltants. Ils avaient Diana Somoa, ils avaient Astou qui était véritablement un poison qu'on ne connaissait pas. Et nous, on avait quand même un maçon devant qui n'a cadré aucun tir, donc Ndip Tambay. Mais on a quand même réussi à battre ces...
Bah,
ces
Giroud, il a pas cadré, les champions du monde. Donc,
vous voyez, aujourd'hui, cette équipe des Lions est beaucoup plus cohérente, puisque j'ai quand même vu, à cette époque-là, on nous annonçait n'importe quoi, mais il y avait Faye qui avait réussi à tenir.
Collins Faye.
Voilà. Donc, et il faut savoir que le Ghana aura quand même des cartouches en moins. Certes, on annonçait du côté des Lions indomptables, par exemple, Choupo-Moting, qui pouvait être absent, mais Choupo-Moting s'est bel et bien entraîné. Mais l'entraîneur ghanéen, Appiah, maintenant, il est en train de vouloir un peu jouer au chien à la souris en disant que, écoutez, Ayou s'est entraîné, mais on n'a pas les images.
C'est politique.
Il s'est beaucoup entraîné. Donc, il pourrait être appelé à faire jouer, par exemple, Diana Somoa, qui n'était pas dans ses plans et qui a eu des problèmes avec lui et qui a été rappelé par le chef de l'État. Mais pour le côté des Lions, ce qu'on a au niveau actuellement de la défense, ça tient la route avec Yaya Banana, qui n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait avoir. Vraiment, c'est quelqu'un qui est solide. C'est un autre démission qui est revenu. Nous avons un très, très bon gardien que vous avez vu au niveau de l'Ajax avec Andro Onana. Mm-hmm. Nous avons quand même devant des flèches qui peuvent faire mal à n'importe quelle défense.
Si André Ayou ne jouait pas, était parce qu'il est diminué, apparemment incertain pour le prochain match.
Sous surveillance médicale.
On verra bien, oui. Mais ça serait une grosse perte pour les Black Stars qui n'ont pas été très...
Ça serait une énorme perte, parce que sincèrement, sur le premier match, c'est lui qui a absolument tout fait, que ce soit dans le jeu, que ce soit en termes de leader, c'est lui qui a absolument tout fait, il a même marqué un but. S'il joue pas, ça veut dire que ça va reposer. On va reposer, donc Rémi parlait d'Assamoah Gyan, on peut aussi parler d'Atsu et de son frère, Jordan Ayou. Mais globalement, cette équipe du Ghana, elle est décevante dans le jeu. J'ai pas l'impression qu'il y ait deux joueurs capables de sortir du lot comme le font André Ayou. Donc si jamais il est vraiment blessé ou en tout cas diminué, bah, ça sera très compliqué pour le Ghana.
Mais sauf que je vais juste ajouter un bémol. C'est que le Ghana a quand même eu à jouer en infériorité numérique pendant près de 40 minutes. Donc après l'expulsion de John Boy.
Oui.
Donc, et du coup, on ne peut pas véritablement les juger sur ce plan-là. Et même quand il est sorti, c'est eux qui ont fini
tout à fait
sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire que vers la fin du match, alors qu'ils étaient en infériorité numérique,
ils ont été menés au score quand même. Équipe qui a priori sur le papier des arguments inférieurs.
Ah non, on ne regarde pas que être mené au score, on regarde comment on finit un match. Parce que toutes les grandes équipes peuvent être menées, mais on voit comment va le cours du jeu. Donc,
est-ce que le Ghana était bon sur le premier match, Rémi? Réponds à ma question simplement. Est-ce que le Ghana était bon sur le premier match?
Je peux dire oui.
Ah bon?
Je peux dire oui, parce que ce que j'ai vu, et surtout vers la fin, en infériorité numérique, lorsque j'ai vu la position et surtout les difficultés qu'ils ont eu à créer, la façon qu'ils ont eu, par exemple, Wakaso était beaucoup plus positionné haut. Et j'ai constaté que non seulement il pouvait se projeter, mais en même temps, j'ai constaté qu'il était très polyvalent. Et pour moi, je me dis, ce Ghana-là, certes, n'est plus le Ghana des Abedi Pelé, certes n'est plus le Ghana de comme on pouvait dire là, les John Mensah consorts, mais ça reste le Ghana.
Alors ça reste le Ghana dans le même groupe. On a un Bénin Guinée-Bissau du
intéressant,
coup
ouais.
Très intéressant avec bien une victoire attendue, une victoire rêvée de la part des écureuils.
Ce serait leur première.
Voilà.
Ce serait historique.
Effectivement, ont réussi à tenir en échec le Ghana, ce qui était déjà pour un point gagné très important. Et peut-être que demain soir à Ismaïlia, eh bien les écureuils pourraient remporter.
Franchement, c'est une balle de match pour le football béninois. Si ils arrivent à remporter la victoire, bon, au minimum, ils finiront peut-être dans les trois premiers, ou à 80%, ils seront qualifiés au moins grâce à la troisième place, même si je leur souhaite d'aller plus haut. Moi, j'ai trouvé le Ghana plutôt moyen, mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est le Bénin. On en avait discuté ici. Ils ont confirmé quand même leur bonne séquence lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a un coach dont on ne parle pas beaucoup, qui est pour moi un peu sous-côté, qui travaille. Bon, ici, on en parle beaucoup.
Michel Dussuyer.
Ensuite, c'est une équipe qui a des arguments. On va pas reciter tous les éléments, mais je pense qu'il y a, quand vous avez un garçon comme Steve Mounier, je suis pas sûr que toutes les sélections africaines
ont
un garçon aussi complet.
Le retour de Cessegnon,
effectivement, parce qu'il avait été suspendu pour le premier.
C'est une vraie remarque.
Ouais,
c'est la meilleure de l'émission, d'ailleurs. C'est vraiment, je vous le dis dans les yeux.
Merci.
De rien.
Et ceux qui nous regardent peuvent le constater. Naïm, un petit commentaire. La mauvaise nouvelle de la journée, elle venait du côté de la Guinée. La Guinée et de Naby Keïta, qui est forfait pour le dernier match de la sélection. Sa blessure, apparemment, de Liverpool l'empêchera de disputer le dernier match. Ça sera contre le Burundi et c'est un match essentiel pour la Guinée.
C'est un match essentiel pour la qualification. Alors, il y a d'autres arguments en Guinée aujourd'hui. Moi, je pense notamment à Diawara qui fait quand même un début de CAN de très bonne qualité. Devant, ils ont quand même Kamano qui, même s'il n'a pas été très décisif sur le deuxième match, c'est quand même été un joueur de qualité. Après l'absence de Naby Keïta, au-delà de ce qu'il peut amener dans le jeu, c'est quand même un leader, c'est quand même une star, qu'on le veuille ou non, les champions d'Europe avec
Liverpool. Il sera toujours là dans le vestiaire.
Oui, il sera dans le vestiaire.
Mais on l'a vu diminuer sur le terrain.
Quand bien même s'il il fait pas le match, mais il revient par la suite, entre revenir sur le terrain et revenir à son niveau, c'est pas la même chose, pas du tout. Et moi, c'est très inquiétant pour la Guinée.
Mais moi, je peux te dire, si tu écoutes aujourd'hui les Guinéens, et surtout la presse guinéenne, ils sont amers, parce qu'on trouve qu'on a fait qu'ils viennent un peu tôt, parce que pratiquement pour le dernier match, il est le joueur le moins bien noté. Donc, si un leader...
Il n'est pas bien préparé, peut-être.
Voilà, il n'est pas préparé. On n'est même pas sûr qu'il était déjà guéri, puisque on le lance parce que la Guinée est menée, et c'est pour ça qu'on se dit que bon, voilà, il faudrait.
Rémi, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais tu peux comprendre quand t'es la Guinée et que t'as un joueur du calibre de Naby Keïta dans ton effectif, même diminué, tu peux comprendre qu'il le fasse jouer. Ça, c'est compréhensible. Tu as raison, mais c'est compréhensible ce qu'ils font.
Naby Djellit,
oui.
Pour terminer, vous avez quelques secondes pour me vendre bien la demi-finale qui se jouera bientôt entre l'Argentine et le Brésil.
Ah bah oui, non, mais là je suis avec grand plaisir, c'est une affiche rêvée.
Non mais c'est surtout parce que l'Argentine vient de se qualifier face au Venezuela, 2-0.
Deux buts à zéro. C'était plutôt attendu sur une pelouse qui d'ailleurs était plutôt dégradée, qui a empiété sur le niveau de jeu. En tout cas, c'est une demi-finale rêvée. C'est une affiche extraordinaire qui ressemble à une finale de Coupe du Monde ou une finale de Copa América, mais ça sera en demi-finale. D'un côté, le Brésil qui s'en est sorti assez difficilement face à cette équipe du Paraguay, qui était courageuse avec beaucoup d'abnégation. Mais le Brésil a beaucoup de qualité. Et l'Argentine, il y a un homme qui doit remporter un trophée avec l'Argentine. Sinon, notre ami Rémi Ngono nous dira toujours que Cristiano Ronaldo est plus fort que Lionel Messi.
De toutes les façons, on ne l'a pas encore vu pendant la compétition. Certes, il a marqué le pénalty, mais vraiment, c'est le seul qui est absent comme Neymar.
C'est fini, Rémi. Merci beaucoup d'être venu participer à ce Radio Foot Radio et Télé. Merci à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission, à Laurent Salerno, à Laure Tamperville et à Swell Kedir. Merci aussi à Nicolas Benita. On vous dit à lundi.